C'est un podcast Vivre FM. Vivre, c'est épatant.
Depuis les Champs-Élysées,
sur Vivre FM. 18% de Français déclarent se sentir seuls, parmi eux des jeunes, des moins jeunes, des seniors, de toutes origines géographiques, sociales. Eh bien, une journée leur est consacrée, c'est le 23 janvier. Aujourd'hui, ça tombe un dimanche. L'association Astrée, qui s'occupe de cette journée, mais qui aide également toute l'année, depuis des années, aide les personnes qui souffrent de solitude. Eh bien, nous avons deux représentants, deux bénévoles qui sont là aujourd'hui pour nous expliquer ce qui peut être fait pour aider ces personnes qui souffrent de solitude et également ce qu'on peut faire lorsqu'on souffre de solitude.
Vous écoutez Vivre c'est épatant
avec Carole Clémence. Nous avons donc deux bénévoles de l'association Astrée. Dominique, bonjour.
Bonjour.
Et puis Gérard également qui est face à vous. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Alors vous êtes bénévole, qu'est-ce que vous faites exactement?
Écoutez, je vais peut-être commencer.
Gérard.
En vérité, une des activités principales d'Astrée, qui est d'être effectivement bénévole écoutant, c'est-à-dire d'être en contact régulièrement, hebdomadairement en fait, avec des gens qui ont sollicité Astrée pour être accompagnés, pour être écoutés, pour essayer de rompre le plus possible effectivement la solitude, l'isolement dans lequel ils sont ou dans lequel ils se sentent d'ailleurs, ce qui quelque part revient à la même chose puisqu'ils ont besoin d'un accompagnement, d'une capacité à sortir d'un cercle un peu vicieux.
Oui, oui. Et Dominique, Gérard, la journée du 23, donc dimanche, il y a quelque chose de particulier qui va être mis en œuvre?
Alors, on met quelque chose de particulier en œuvre, en fait, un petit peu tout au long de la semaine qui précède. Hein, la journée du 23 tombant un dimanche cette année. Donc, il y a des journées portes ouvertes. Alors, nous, on a 21 antennes puisqu'on n'est pas que sur Paris. Donc toutes les antennes font soit des manifestations comme celle que nous allons faire à Paris, qui est donc une journée porte ouverte à notre siège, 3 rue du chef de la ville. Donc les gens peuvent venir pour nous connaître, connaître notre action, voir comment ils peuvent être accompagnés ou comment ils peuvent nous rejoindre comme bénévoles, s'ils le souhaitent.
Et oui, puisque vous cherchez des bénévoles, évidemment, comme toute
association. On est toujours en recherche de bénévoles, hein, évidemment. Sur Paris, nous sommes environ 80-90 bénévoles. Pour 120 personnes accompagnées, en moyenne, il peut y en avoir un peu plus, un peu moins. Voilà.
Oui, et puis vous avez 21 antennes dans toute la France, Paris, Troyes, Nantes, Marseille, Lyon.
Oui, Lille, Dijon, enfin.
Voilà, on ne voit pas toutes les cités.
Non.
Mais vous existez depuis une trentaine d'années, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Gérard.
Depuis 35 ans, en 1987, sauf erreur, effectivement. Donc c'est quelque chose qui est maintenant un petit peu d'ancienneté, surtout d'expérience en vérité, et qui d'ailleurs, par la même occasion, comme le disait Dominique, il y a un développement régulier, une croissance du nombre d'antennes à travers le territoire français, et donc de bénévoles qui valident le fait que le besoin d'accompagnement des personnes en solitude est toujours vrai, et même de plus en plus vrai en vérité.
Oui, alors une grande partie de votre activité, c'est l'écoute. L'écoute des personnes isolées, des personnes qui se sentent isolées, comment ça fonctionne? Qui veut répondre?
Alors, le
Dominique.
Socle d'Astrée, effectivement, l'action principale, c'est l'accompagnement de personnes isolées. Donc, des personnes qui se sentent isolées nous contactent. Il faut savoir que quand même, il y a, d'après les enquêtes que nous menons régulièrement, il y a quand même une personne sur cinq en France qui se sent isolée.
C'est beaucoup, hein?
C'est beaucoup, c'est énorme. Avec un souci, c'est que ces personnes souvent n'osent pas en parler. Il y a une espèce de tabou autour de la solitude.
Honte.
Voilà, une honte. Donc, les personnes qui nous contactent, à ce moment-là, nous, ce que nous pouvons leur proposer, ce sont un accompagnement individuel. Donc, la personne est accompagnée, elle rencontre un bénévole une fois par semaine, une heure et demie, soit à notre siège du rue du chef de la ville, où nous avons des locaux, pour Paris évidemment, hein, après je ne parle pas de la province. Soit nous pouvons éventuellement aller chez la personne si elle ne peut pas se déplacer, ce qui peut arriver. Ou encore, ça peut se passer par téléphone. Voilà. On a quand même beaucoup de téléphones aujourd'hui avec la pandémie.
Oui.
C'est quelque chose qui se développe.
Oui, oui, je pensais que vous étiez essentiellement au téléphone, mais
non.
À la base, les gens pouvaient se rencontrer.
Tout à fait. Et personnellement, j'ai continué, alors jusqu'à récemment, je ne vois plus la personne que j'accompagne pour des raisons qui lui sont propres de santé. Mais sinon, pendant toute l'année et demie qui vient de s'écouler, j'allais chez elle une fois par semaine. Oui.
Oui, oui, c'est vous qui vous déplaciez.
Oui, là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui avait une santé fragile.
D'accord, oui. Et là, on parle d'une personne qui a une santé fragile. J'ai cité les jeunes qui souffrent beaucoup du sentiment de solitude.
Oui.
Qui sont vos bénéficiaires ?
Alors, en fait, le problème, c'est que nos bénéficiaires, c'est tout le monde. Ça peut être vous, ça peut être nous, ça peut être... Donc, il y a des gens très jeunes, effectivement, qui sont... enfin, après, il y a des gens qui viennent nous voir, ils sont comme ça... Enfin, ils ont des gens autour d'eux, ils ont une famille, ils ont un médecin, ils ont une assistante sociale, mais ils ont du mal, ils ont à parler, ils peuvent pas... Enfin, ils ont du mal à trouver quelqu'un qui les écoute vraiment. C'est pour ça qu'en fait, ils se sentent seuls, même au milieu de la foule.
Très entourés, mais pas écoutés, c'est
voilà,
ça.
Voilà, tout à fait.
Oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le sentiment d'isolement. En vérité, il y a des gens qui ont effectivement quantitativement personne autour d'eux, réellement personne, donc une solitude, je dirais, brute, si j'ose dire. Mais bien souvent, comme dit Dominique, il y a des gens qui ont une vie qui peut paraître relativement classique, si j'ose dire, mais où l'écoute n'y est pas, où le sentiment de solitude est prédominant, en vérité. Mais vous disiez quelque chose d'important, c'est la pandémie, d'une part, qui a accentué quand même, le phénomène, phénomène dont nous parlons, ça l'a forcément aggravé.
Oui.
Notamment, j'imagine, je dirais peut-être du côté des plus jeunes d'ailleurs. Hein. C'est l'autre point qui est assez saisissant, je pense. Hein. C'est que cette solitude-là n'est pas du tout systématiquement liée à l'âge. Bien sûr que ça fonctionne, que c'est une réalité pour des personnes âgées, mais comme disait Dominique, ça concerne absolument tout le monde. C'est assez étonnant, c'est un petit peu inattendu. Il y a énormément de gens qui sont jeunes. Qui se retrouvent effectivement sans repère, sans lien social véritable. Et là, il me semble que le phénomène de honte, de gêne, de difficulté à en parler joue à plein, puisqu'on associe quand même, hein, sociétalement parlant, je pense, la solitude à l'âge.
Oui,
c'est vrai, mais pas complètement. Donc ça devient faux finalement, puisque ça concerne tout le monde en vérité.
Mais j'imagine qu'il y a des gens qui se sentent seuls mais qui n'osent pas vous contacter en se disant « j'ai pas le profil ».
Ça peut arriver. Alors, par contre, le problème, c'est que... Enfin, le problème. Nous demandons à ce que les gens nous contactent, eux. Quelquefois, nous avons des personnes de leur famille ou bien de leur entourage ou des assistantes sociales qui nous contactent en disant « voilà, telle personne est isolée, ça serait peut-être bien qu'elle vous rencontre ». Mais nous souhaitons que la personne, ça soit une démarche personnelle parce qu'on se rend vite compte que finalement, si c'est pas elle qui est engagée dans la démarche, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Ce que je voulais dire qui est peut-être important, c'est que les bénévoles accompagnants sont formés. Donc nous avons quand même toute une démarche de recrutement, si je puis dire, avec d'abord un premier entretien, une formation à l'écoute active, ce type Carl Rogers, et puis un dernier entretien, et donc les bénévoles sont aussi accompagnés avec des groupes de parole qui sont obligatoires une fois par mois la première année.
On va revenir sur ce que vous proposez en termes d'écoute. Par exemple, je veux vous contacter, je veux parler à quelqu'un, je prends mon téléphone et qu'est-ce qui va se passer ? Je vais tomber sur qui ? Qu'est-ce qu'on va me dire ?
Écoutez, vous allez tomber sur soit une personne qui va vous répondre directement, hein, un bénévole d'Astré qui est dans les locaux. Ce n'est pas systématiquement le cas. On peut, il faut le dire, tomber sur un répondeur. Ça peut arriver également.
Bien
entendu, ce répondeur est relevé très rapidement. Et donc, à partir de là, il y a, je dirais, une espèce de protocole simple qui est de valider la qualité de la demande, si j'ose dire, puisque le fait d'appeler ne signifie pas systématiquement que la demande va être validée par Astré. Mais à partir du moment où elle l'est, je dirais, et d'une manière générale, elle l'est typiquement, il y a une mise en relation qui se fait entre le demandeur ou la demandeuse et un ou une bénévole qui est donc disponible pour l'écoute, en vérité. Sachant qu'il y a des choses qui sont validées, des choses très, très concrètes, comme par exemple, si c'est un monsieur qui appelle, on va voir, valider avec lui s'il souhaite être écouté par un monsieur, ou au contraire par une dame, ou indifférent, ce genre de choses, de manière à ce que la réunion, la mise en relation du demandeur et du bénévole soit la plus pertinente possible.
Oui.
Et donc, les personnes ensuite calent un rythme qui convient aux deux, au demandeur et puis au bénévole, mais à ce que le rythme dont parlait Dominique, hebdomadaire, qui, en face à face qui, au téléphone, se mettent en place.
Oui.
Parce qu'il me semble, juste si je peux juste encore dire un mot là-dessus, sur ce sujet, que là, notamment la régularité des échanges, des écoutes, des accompagnements, la régularité véritable, chaque semaine, une fois, telle heure, tel jour, est assez fondamentale. Ça fait partie du...
Dominique ?
De l'intérêt.
Oui. Je voulais juste rajouter que nous avons en fait des bénévoles qui sont donc dédiés à cette permanence téléphonique et qui vont donc approfondir un petit peu la demande de la personne, voir si elle relève bien de nous, parce que quelquefois il peut y avoir des gens qui ont aussi une demande un peu plus sociale, de logement, de choses comme ça. Donc voilà. Et puis donc faire ce qu'on appelle donc la mise en relation, parce qu'elles connaissent bien les bénévoles et elles savent à qui s'adresser. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les gens peuvent nous contacter par mail aussi. Ça, quelquefois, pour certains, la démarche téléphone n'est pas évidente. Donc, il y en a qui nous
donc
contactent.
Il peut y avoir des échanges par mail.
Oui.
Mais c'est plus compliqué d'écouter quelqu'un par mail.
Ah non, non, pardon, excusez-moi, je me suis mal expliquée. C'est les gens nous contactent par mail, mais après,
d'accord, y a
les échanges
non,
se font par téléphone. Moi, ça m'est arrivé de faire des échanges en visio pendant les confinements. Voilà, mais après, ce que moi, je suis équipée, parce que je trouve que c'est plus sympa que le téléphone, mais si la personne est équipée, c'est. Ça peut être une solution, mais ce n'est pas
sûr.
La priorité.
Oui. Alors, la personne peut vous dire « j'ai tel problème, je m'ennuie ». Qu'est-ce qu'elle va vous dire, la personne ?
C'est variable dans le détail, bien sûr. Et pour ma part, je n'ai pas eu cette expérience-là de recevoir un appel en direct. Mais c'est une expression de souffrance, oui, de solitude, qui peut revêtir toute une série de réalités. Je dirais que là, la gamme est large, si j'ose dire. Et que c'est le détail. Et puis l'appréciation que va faire la personne qui reçoit l'appel chez Astrée, comme le disait Dominique, qui va permettre d'aller plus avant ou pas, dans certains cas. Pas. Mais je pense, sauf erreur, ça prend des formes très, très variées, quoi. C'est une palette large.
Oui, alors on a peut-être deux, trois grands types de personnes. Des personnes qui sont encore dans le monde, en activité, etc., mais qui donc se sentent quand même isolées. On a des personnes qui se sentent isolées parce qu'elles sont malades, voilà, et qu'elles ne voient personne. Et puis, on a aussi des personnes qui peuvent nous contacter parce qu'elles ont un problème, on va dire, ponctuel, entre guillemets, un deuil. Elles sont au chômage, brutalement. Et donc, cette période est extrêmement difficile à vivre. Et donc, elles vont avoir besoin de parler pendant un temps qui, finalement, va être relativement limité, même si nous, on ne les limite pas, mais bon. Et puis, au bout d'un moment, quand la situation s'améliore, à ce moment-là, ça va mieux. Et puis voilà. Mmh. Voilà. Mais il peut y avoir des gens où, la solitude est structurelle, entre guillemets, et d'autres où le sentiment d'isolement et de solitude est conjoncturel en fonction des événements de la vie.
Oui, oui. Il peut y avoir des problèmes qui ont des gens qui ont du mal à faire un choix et qui vont vous demander conseil.
Oui, mais...
Qu'est-ce que vous en pensez ? Je subis telle situation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que je devrais faire ?
Et nous, on ne donne pas de conseils. C'est là que... C'est toute la spécificité de notre écoute. C'est qu'on va aider plutôt les gens à trouver leur solution. On n'est pas là pour leur donner des conseils. Ce n'est pas notre vie, c'est la leur. Donc, on essaye.
Il doit y avoir une frustration quand même de la part de la personne qui vous appelle et qui veut un conseil, qui veut qu'on l'aide.
Ça peut être effectivement frustrant, mais en général, quand on leur explique gentiment, en général, ça finit par...
Oui.
Ils finissent par comprendre. Et puis, il ne faut pas oublier que notre accompagnement, il est sur la durée. On a des gens... moi, personnellement, j'ai une dame actuellement, ça fait 2 ans
oui.
que je l'écoute. Alors, elle, c'est par téléphone. Il peut y avoir des gens... quelquefois, ça peut durer quelques mois. Voilà, mais donc comme c'est sur la durée, les gens comprennent aussi et finissent par s'habituer à cette forme d'accompagnement.
Très bien, d'accord. Ouais, mais c'est compliqué. Ça doit être compliqué pour quelqu'un qui écoute et qui a envie d'aider aussi, parfois de ne pas donner de conseils.
C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Vous l'avez bien perçu, j'ai envie de dire, effectivement, comme le dit Dominique. C'est une écoute active très spécifique qui n'est pas du tout si simple qu'on pourrait l'imaginer, où effectivement il y a une espèce de ligne de crête à respecter. Ne pas donner de conseils, en tout cas pas de conseils faciles et de première intention, qu'on peut avoir tendance naturellement à donner. Donc il faut éviter cet accueil-là, c'est important. L'écoute active, c'est une écoute basée sur l'empathie. Donc, ça comprend notamment une vraie présence, une reformulation On peut poser des questions, mais qui ne soient pas intrusives, bien sûr, des questions de compréhension. La reformulation, c'est un concept assez majeur hein, dans cette histoire-là pour aider la personne, effectivement, à y voir un peu plus clair dans son cheminement, son prononcé, sa manière de mettre en avant son expérience ou ses sentiments. Donc c'est quelque chose d'assez subtil, j'ai envie de dire, hein, et je le dis d'ailleurs jusqu'à un certain point, qui n'est pas simple, où on n'est pas finalement censé attendre quelque chose de spécifique, nous les écoutants. Puisque, à part évidemment, imaginez que la personne au bout du fil, avec le temps, ira mieux dans sa vie, c'est l'objectif quand même. Mais pour autant, il y a une ligne de crête hein, où effectivement, il faut faire se tenir juste sur la bonne frontière, sans jugement, évidemment, sans conseil, idéalement, avec les reformulations, de manière à ce que la personne puisse effectivement elle-même, progressivement, avec le temps, dans un monde idéal, se reconstituer, se retrouver, et aller mieux finalement,
oui.
Bien sûr.
Oui, Gérard, Dominique, vous restez avec nous. On va faire une pause et puis on va continuer à expliquer ce que vous faites au sein d'Astrée pour aider les gens qui souffrent d'isolement.
Vivre FM, la radio de toutes les différences. C'est la plus belle du royaume, pas de Vérone mais de Paname. Elle veut des week-ends à Rome et des châteaux en Espagne. Ses désirs d'île déserte, Juliette a négligé la côte est. C'est juste une erreur de parcours, un aller sans retour. Mais moi je viens de Strasbourg, et elle sait même pas où c'est. Entre Paris et Moscou, parlez-vous le français? Elle m'a dit Roméo, Roméo, oublie ton nom et partons à Rio. Mais moi je viens de Strasbourg, je n'ai qu'un seul amour. À l'anglaise, elle veut pas aller à Berlin. Et puis danser la javanaise face à face avec l'océan Indien. Son cœur cherche le tempo. Moi j'ai pas trop l'air latino. Je suis juste une erreur de parcours. Le plus blanc bec de la basse-cour. Mais moi je viens de Strasbourg. Et elle sait même pas où c'est. Entre Paris et Moscou, parlez-vous le français? Elle m'a dit Roméo. Pas très doué pour les promesses. Moi je suis juste une erreur de parcours, encore et toujours. Mais moi je viens de Strasbourg, et elle sait même pas où c'est. Entre Paris et Moscou, parlez-vous le français? Elle m'a dit Roméo, Roméo, oublie ton nom et partons à Rio. Mais moi je viens de Strasbourg, je n'ai qu'un seul amour.
Strasbourg, amour, Servir FM.
Vous écoutez Vivre, c'est épatant
avec Carole Clémence.
Nous sommes avec l'association Astrée. On parle de la journée des solitudes qui aura lieu ce dimanche, ce 23 janvier. C'est tous les jours, 23 janvier, depuis de nombreuses années, cette journée de la solitude. Alors, ça touche tout le monde, la solitude. On l'a bien vu tout au début de cette émission. 18% de Français déclarent se sentir seuls. Alors, il y a l'écoute qui se fait à l'association Astrée, des écoutants, des bénévoles écoutants. Et puis, il y a d'autres choses dont on en parlera tout à l'heure. On va peut-être revenir sur cette journée de dimanche. Qu'est-ce qui est mis en place ?
Alors, exactement. Oui, tout à l'heure, je disais, donc nous, on fait une journée portes ouvertes qui aura lieu samedi, en fait, hein, samedi 22, donc rue du chef de la ville dans le 13e, 3 rue du chef de la ville dans le 13e arrondissement de Paris. Mais on a aussi des petits films publicitaires, on a des vidéos de sensibilisation qui sont faites par les étudiants de l'IUT de Bobigny.
D'accord.
Qui vont être diffusées à cette occasion. On va lancer notre deuxième édition du concours artistique citoyen. Donc le thème c'est évidemment la solitude et puis oui. Après les œuvres les plus représentatives, il y a un vote donc qui sont proposées.
C'est sous quelle forme, c'est quelle...
Les personnes envoient leurs œuvres par internet. Hein, voilà.
Il s'agit de peinture, il s'agit.
Oui, c'est de la peinture, mais avec sur le thème de la solitude.
D'accord.
Voilà, c'est l'exigence. Et puis ensuite, on propose notamment aux bénévoles, aux gens qui le souhaitent, de voter et puis de délire le tableau qui sera le. Enfin, la peinture qui sera la plus représentée.
Très bien.
Donc, il y a le concours artistique. Et puis, comme on estime que quand même la solitude, c'est quelque chose qui est un problème de santé publique et de santé mentale, l'idée, c'est aussi de lancer, on va publier un manifeste qu'on soumettra à signature électronique pour sensibiliser les gens à ce problème de solitude et qu'on en parle beaucoup plus. C'est la 5e année quand même qu'on fait cette journée des solitudes. Et donc, c'est sous le patronage d'Olivier Véran, bien sûr. Mais on estime que ça pourrait être une grande cause nationale et qu'il pourrait y avoir des campagnes un petit peu comme on fait pour d'autres cas de santé en général.
Oui.
Voilà, donc là, on va lancer ça.
Cette journée des solitudes du 23 janvier, il y a juste Astrée derrière, juste l'association Astrée, ou il y a d'autres structures qui vous accompagnent ?
C'est plutôt nous qui l'organisons. Maintenant, nous sommes très soutenus par... les conseils généraux, les villes dans lesquelles nous sommes, les mairies en général qui se joignent à nous pour justement permettre certaines actions. Je pense notamment à la ville de Rouen où grâce à la mairie, ils vont pouvoir avoir un affichage sur Astrée et son action dans tous les bus de la ville. Enfin voilà, des choses comme ça. Donc on a quand même aussi un soutien... ne serait-ce que par ce genre de partenaire, et puis par nos mécènes, parce que la journée des solitudes, finalement, elle est soutenue par deux mécènes que nous avons, nous en avons plusieurs, mais en l'occurrence, c'est AG2R, la Mondiale et le Crédit Mutuel.
Oui, qui finance vos actions, parce que voilà. Vous êtes bénévole, mais vous avez quand même besoin de financement.
Oui, parce qu'on a quand même des locaux, on est quand même très présent, donc il y a quand même du matériel.
Oui, voilà. Et puis il y a l'écoute téléphonique, par exemple.
Il faut quand même du matériel, il y a des choses comme ça. Et puis nous avons des salariés, peu, 3 ou 4, mais tout de même, parce qu'on est quand même une association nationale. On a entre 600 et 700 bénévoles aujourd'hui.
Oui, il faut gérer tout ça.
Voilà. Et puis on a besoin de locaux. Donc quelquefois, on peut avoir des locaux gratuitement, mais pas toujours.
Oui, oui, oui. À Paris, par exemple, 3 rue du chef de la ville, dans le 13e, c'est votre siège social.
Voilà, c'est notre siège social.
C'est votre siège social. Alors, vous avez cette partie écoute, cette partie sensibilisation. Vous faites des spots, des petits films pour sensibiliser à la solitude. Qu'est-ce qui se passe d'autre au sein d'Astrée, justement ?
Alors, au sein d'Astrée, nous avons deux autres actions. Une action qui est un peu plus modeste en direction des gens qui sortent des hôpitaux. Qui est menée par des personnes dédiées, mais aussi surtout une action vis-à-vis des collèges, puisqu'il y a une dizaine d'années, des bénévoles d'Astrée, notamment, alors ça a été lancé sur Lyon, mais ça s'est mis sur un certain nombre d'autres grandes villes comme Lille ou Paris. Donc l'idée, c'était on s'est rendu compte que finalement, les collégiens pouvaient se sentir très seuls, n'allaient pas bien. Et du coup, nous avons monté des actions dans les collèges. Donc, ça se décline de la façon suivante. Nous prenons toutes les classes de 4e d'un collège et nous leur faisons un petit atelier de sensibilisation de 2 heures pendant lesquelles nous leur montrons comment on repère quelqu'un qui ne va pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui, comment on peut passer le relais si la situation est compliquée. Donc ça, c'est pour tout le monde. Et les élèves qui le souhaitent peuvent ensuite suivre un atelier de formation de 2 heures également, où là, on va un peu plus les initier à l'écoute active, de façon à repérer des élèves qui ne vont pas bien ou suivre des élèves que éventuellement le collège leur signale, les accompagner à ce moment-là pour aller les écouter une fois par semaine, essayer de les épauler. En général, quand c'est des quatrièmes, ils accompagnent plutôt des sixièmes. Voilà, et donc nous revenons ensuite toutes les 6 semaines pour faire des groupes de parole et suivre l'action.
Oui, oui. Alors, la première sensibilisation qui se fait pour toute la classe, donc repérer quelqu'un qui irait mal pour essayer de l'aider, est-ce que vous sentez de la bienveillance de la part des jeunes qui vous écoutent ? Parce qu'on parle toujours de harcèlement, et effectivement, une personne qui est isolée, c'est une personne qui va être harcelée.
Oui, alors on a plutôt l'impression de bienveillance. Les jeunes sont souvent très mûrs, hein, finalement, savent très très bien comment on repère quelqu'un qui ne va pas bien, finalement. Donc sont les premiers à nous donner un tas de signes qui montrent que certains pourraient ne pas aller bien.
Oui.
Donc après, une fois qu'on a vu ça, on voit comment est-ce qu'ils peuvent faire à leur niveau, hein, comment ils peuvent aller vers l'autre, éventuellement l'écouter. Donc avec évidemment une préférence pour ce qu'on appelle l'attitude de compréhension, de reformulation, ce qu'on leur explique.
Donc, et puis, ce que vous pratiquez en tant qu'écoutant, c'est-à-dire voilà, on donne des conseils.
En fait, c'est adapté aux jeunes finalement, et sous forme d'exercices, de petites vidéos, de jeux, beaucoup d'échanges. Et puis, si le cas est trop grave, leur expliquer comment ils peuvent passer le relais à un adulte.
Oui, oui. Et vous avez des anecdotes, des retours, justement de cette période, période de sensibilisation que vous pratiquez dans des collèges, des classes de quatrième ?
Ben souvent, les élèves, en fait, on a pas mal d'élèves qui se portent volontaires, qui sont. Alors, on a des élèves qui, quelquefois, on sent bien, ils parlent de certains cas, mais on sent bien que finalement, quelque part, c'est peut-être eux dont ils parlent.
Oui.
On fait des fois des jeux de rôle. Un peu des petits jeux de rôle, et on sent bien que certains élèves, le choix qu'ils ont du cas d'élève qui va pas bien, mais en fait c'est leur cas à eux. Donc ça peut être assez émouvant, et finalement tous ces jeunes sont vraiment assez sensibles et assez conscients des problèmes qu'il peut y avoir.
Oui, oui, oui. Il n'y a pas de moquerie, il n'y a pas de mauvaise.
Pas du tout, au contraire. Ils sont. Alors, ça dure 2 heures, hein, donc c'est assez interactif, voilà. Mais non, au contraire, on sent bien qu'ils sont assez concernés et qu'ils comprennent bien ce qui se passe.
Très bien. Donc, ça, c'est
et donc,
la première
phase. Et donc, les retours des collèges où l'action se mène depuis un certain nombre d'années, c'est que finalement, le climat s'apaise, le climat est plus convivial, plus agréable entre les élèves. Et d'ailleurs, souvent, les principaux ou éventuellement les CPE, quand ils changent de collège, parlent de notre action et nous demandent de venir, un petit peu par bouche à oreille.
Oui, 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 donc ça fonctionne.
Oui,
vous
ça
en
fonctionne.
La preuve, ça fonctionne. Pas simplement.
Ça fonctionne très bien. Ouais. Sur Paris, on a, enfin, l'Île-de-France, on a 7 ou 8 collèges. Donc Saint-Ouen, Saint-Cloud, Chatou, et puis 3 collèges dans le 13e et un à venir dans le 4e.
Très bien, on continue d'en parler avec vous Dominique et vous aussi Gérard de ce très beau projet, enfin, ces très belles actions dans les collèges pour aider les jeunes qui souffrent de solitude. Je rappelle que la journée de la solitude, eh bien, c'est le dimanche 23 janvier et puis vous avez vos portes ouvertes à Paris au siège social le samedi.
Vivre FM. La radio de toutes les différences.
I saw the fire in your eyes. I saw the fire when I look into your eyes.
Take My Breath, The Weeknd sur Vivre FM.
Vous écoutez Vivre c'est épatant
avec Carole Clémence.
Et nous retrouvons nos invités Dominique et Gérard de l'association Astrée. Ils sont bénévoles pour cette association qui aide les personnes qui souffrent de solitude, qui souffrent du sentiment de solitude. Elles sont 18% en France. Alors on parlait du statut d'écoutant, c'est-à-dire on écoute des personnes qui souffrent de solitude, des adultes le plus souvent. Et puis il y a aussi ce projet dont on a parlé juste avant la coupure, ce projet dans les collèges. Alors vous allez dans les collèges, vous, les personnes d'Astrée, les bénévoles d'Astrée, vous allez former des petits quatrièmes à repérer des personnes qui iraient mal, qui souffriraient de solitude pour les aider. Ça marche très bien.
Oui, alors nous allons former ces quatrièmes. Donc les écoutants Astrée qui s'occupent des collèges ont une formation particulière complémentaire de la formation Astrée de base. Et donc oui, ça fonctionne bien puisque nous avons des principaux de collèges qui, quand ils quittent leur établissement, ou du CPE, quand ils quittent leur établissement, nous demandent de décliner l'action ensuite dans le nouveau collège. Parce qu'ils constatent, alors c'est des choses un petit peu impalpables, hein, mais ils constatent quand même un meilleur vivre ensemble, une meilleure atmosphère, quelque chose d'apaisé. Qui souvent se voit un petit peu sur la durée. Oui. Quand on est dans des collèges, on n'y est pas pour une année. Hein. En général, on y est pour un certain temps.
Oui.
Donc voilà, ce qui fait que... Alors, on a plusieurs collèges donc, sur Paris, mais aussi en province. On doit intervenir aujourd'hui sur une bonne vingtaine de collèges France entière.
Oui.
Et on continue à développer.
7-8 en Ile-de-France, pareil à ouais. Lyon. Il y en a aussi, ça a ouais. commencé à Lyon, il y en a beaucoup
voilà,
à Lyon.
Il y en a à Lille, il y en a à Rouen.
Oui.
À Strasbourg, le projet se met en place. Enfin, voilà, il y a Toulouse aussi, je crois.
Est-ce que vous devez démarcher les collèges ou ce sont eux qui viennent vous chercher ?
J'irai les deux, mon général. Le plus souvent, c'est quand même nous qui leur proposons, qui allons les voir, leur proposant l'action. Mais quelquefois, ça peut arriver, et notamment quand il s'agit donc de collèges où des enseignants, des principaux, on connaisse l'action, que ce soit eux qui nous le demandent. Oui.
Oui.
C'est arrivé il n'y a pas très longtemps avec un collège parisien où finalement le CPE qui nous a contactés connaissait l'action d'Astrée qui avait lieu, je crois, à Aix-en-Provence, parce qu'on doit avoir un collège là-bas aussi. Donc, voilà.
Donc ça se développe, ça fonctionne, oui. Ça se développe. Voilà. Et alors, ces petits quatrièmes que vous formez, ils vont par la suite suivre d'autres élèves, d'autres petits
sixièmes.
Tout à fait.
Alors, en général, ils sont présentés donc à leur rentrée de troisième, Enfin, c'est la procédure classique, mais après, il peut y avoir des petits changements. Donc, ils sont présentés par l'établissement au moment de la journée d'accueil des sixièmes, repérés comme bienveilleurs. Alors après, certains collèges mettent en place des trombinoscopes, des choses comme ça. Et déjà, les petits sixièmes qui savent qu'ils peuvent aller vers eux, mais ça peut être aussi des sixièmes qui vont leur être désignés par le professeur principal ou par le CPE comme n'allant pas bien. Et de même, eux ont un rôle de sentinelle quand ils sont à la cantine, quand ils sont en récréation. Ils peuvent repérer déjà, eux aussi, des élèves qui n'iraient pas bien sixième, mais ça peut être d'autres classes éventuellement.
Oui, oui, et ça, ça doit être important pour des enfants qui débarquent, qui sont complètement perdus, qui ne connaissent personne, de savoir qu'il y a quelqu'un.
Voilà, ça peut permettre finalement de sauver une
scolarité.
Une scolarité, tout à fait.
Oui, oui. Vous avez des exemples comme ça où vraiment vous avez pris conscience que cette personne qui a été aidée, vous l'avez sauvée?
Alors, oui, dans le sens que nous avons par exemple des élèves qui ont été accompagnés et qui finalement, quand eux arrivent en quatrième, ben, deviennent accompagnants.
Oui.
Parce qu'ils se disent, bon, ben, nous, ça nous a aidés. Et puis, on a aussi les élèves qui sont, eux, bienveilleurs. Qui explique que vraiment ça leur apporte quand même quelque chose aussi, mais souvent c'est des enfants qui sont quand même aussi déjà un petit peu portés vers ce genre de mission
et altruiste
assez quand même.
Oui.
Et ça... pas que. Et on a des enfants qui sont repérés en général par l'administration comme étant quand même un peu en difficulté et qui se proposent comme bienveilleurs et à qui ça fait beaucoup de bien justement de pouvoir aider d'autres.
Oui, oui, ils sont utiles, ils ont leur place, voilà, ils ont pris une place valorisante,
oui.
Effectivement. Oui. Et alors, je suis dans un collège, je vous entends, Dominique, parler de cette initiative, de ce très beau projet. Qu'est-ce que je fais? Je vous appelle pour mettre ça
vous,
en place?
Vous envoyez un mail ou vous appelez Astrée. Et à ce moment-là, l'équipe en charge du collège, donc ça peut être moi ou une autre personne, vous contacte, on vient vous présenter l'action, on vous explique comment ça se passe, on signe une convention, parce qu'il y a quand même des conventions signées évidemment, et puis on y va.
Mais il faut qu'il y ait des bénévoles qui soient disponibles.
Oui, alors on a des bénévoles quand même, hein, pas autant qu'on voudrait. Maintenant, s'il y a des personnes qui souhaitent nous rejoindre pour s'occuper des collèges, elles sont toujours les bienvenues. Il n'y a pas de souci.
Gérard, vous êtes bénévole, justement. Vous vous occupez pas du tout des collèges. Vous êtes écoutant.
Non. Je n'interviens absolument pas dans ce super projet. Si vous me demandez ce que j'en pense, je suis très à l'aise pour vous dire que c'est un projet fantastique, vraiment fantastique. C'est une immense belle tâche d'Astrée, parce que c'est porteur d'espoir, j'ai envie de dire, hein, puisque là on parle de jeunes, on parle de cette difficulté là et ça casse un peu l'image que parfois ont certains jeunes, hein, qui sont volontiers perçus comme des harceleurs précisément ou des choses comme ça, alors que là on voit bien qu'il y a une vraie possibilité, un vrai terreau, une vraie capacité, hein, d'une partie de cette population là à intervenir, à aider. Donc non, mais je ne m'occupe pas moi-même pour l'instant je n'interviens pas auprès de ce secteur-là.
Oui, alors on arrive bientôt au terme de l'émission, il reste quelques minutes. Qui veut conclure, Gérard?
Ben écoutez, pourquoi pas. Non, en vérité, Astrée, comme vous l'avez bien noté, c'est une, disons, ce sont plusieurs types d'actions différentes qui ont toutes pour vocation de sortir les gens qui sont dans la solitude et dans leur isolement pour vivre mieux. Je dirais que on a dit plusieurs fois que ça concernait beaucoup de gens, ça concerne des gens qui sont, c'est 10-19% des Français qui se disent en état de solitude. Donc, vous avez besoin d'être grand clair pour comprendre que, comme je dis, dans un rayon de 500 mètres de n'importe quel endroit, d'ici par exemple, il y a forcément des gens qui ont besoin. Ce qui est un petit peu compliqué, bien sûr, c'est que ces gens-là se manifestent et la possibilité, l'occasion, l'opportunité de tirer un peu la sonnette d'alarme en quelque sorte. Hein. C'est toujours un petit peu difficile, puisqu'on a dit aussi que c'était difficile d'en parler d'une manière générale. Donc, je dirais que tous, autant qu'on est, même si ce n'est pas simple, on doit pouvoir faire un peu la part du colibri. Donc, c'est-à-dire imaginer qu'on peut aider, si peu que ce soit, en mettant peut-être un mot dans la boîte aux lettres de quelqu'un dans son immeuble, dont on sait que c'est une personne seule physiquement. Des choses comme ça, des choses simples. Être attentif, être empathique de manière naturelle, ce qui n'est pas toujours évident non plus dans les sociétés où on court tout le temps, où
on est hyper, les gens sont méfiants
hyper connectés, où les gens sont éventuellement méfiants. Mais j'ai envie de dire, si vous voulez bien, que ces actions-là sont peut-être finalement moins difficiles à mener qu'on imagine. Il faut simplement se poser un instant, s'arrêter, imaginer que finalement ce qui paraît simple ne l'est pas forcément pour tout le monde et que donc il y a moyen de déclencher quelque chose. Parfois il suffit de pas grand-chose, il suffit d'un geste, d'un mot, d'un sourire, d'un bonjour dans un hall d'immeuble ou ailleurs et ça peut déclencher un cercle vertueux, je dirais.
Oui. Donc. Vous avez une anecdote, quelque chose, un souvenir de ce type, quelque chose qui vous vient à l'esprit
Écoutez, pas de manière définitive à l'instant me concernant. Je suis moi-même chez Astrée depuis un an et demi, en l'occurrence. Mais comment dire, je pourrais dire par exemple que l'une des deux personnes que j'accompagne, qui a donc fait cette démarche en vérité, est incroyablement touchée par le fait que nos entretiens sont, et je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement, d'une régularité absolue. J'ai envie de dire, et je vais dire à la seconde près. Et ça fait partie d'un bien-être, il me l'exprime. Donc, mais je pense que ce que je veux dire par là, c'est que ça tient encore une fois à peu de choses, à des choses qui sont toutes orientées vers l'autre, vers autrui, de manière naturelle, de manière simple. Et donc, c'est quelque chose qu'on... Je pense qu'il doit pouvoir fonctionner. Astrée le démontre. C'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît, mais je pense qu'en vérité, ce sont des actions qu'on peut mener assez naturellement si on en a profondément envie, en fait.
Oui, oui. Dominique, un dernier mot ?
Écoutez, je crois que Gérard a à peu près tout dit.
Vous cherchez des bénévoles peut-être.
Oui, alors de toute façon, les bénévoles qui souhaitent nous rejoindre, les personnes qui se sentent isolées et qui nous écoutent, qu'elles n'hésitent pas à nous contacter par téléphone ou par mail, ou peut-être, si elles en ont l'envie et l'opportunité, venir demain, donc entre 10h et 16h, à notre siège, donc dans le 13e rue du Chef de la Ville, au numéro 3.
Voilà, à Paris.
Et en savoir un petit peu plus.
Voilà. Merci à vous deux. Merci Dominique. Merci Gérard, bénévoles tous les deux de l'association Astrée, nous avoir parlé de ce que vous mettez en place pour les personnes qui souffrent de solitude. Merci à vous.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.